invité Estelle Midi.
Le Zapping RMC.
Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules. Ce matin, peut-on se permettre de qualifier le président de la République de bâtard? C'est le député LFI François Ruffin qui s'est permis de le faire hier en estimant qu'Emmanuel Macron était le bâtard de François Hollande. Mais ça ne choque pas du tout le chef d'entreprise Mehdi Guezard qui dédramatise ses propos.
Il faut vraiment contextualiser la chose, et c'est dans une phrase qui veut dire justement le fils illégitime en quelque sorte de François Hollande. C'est plus subtil, c'est plus travaillé. Maintenant, si on commence à s'offusquer de tout ce que disent des conneries, comme conneries les politiques, bah écoute, on va faire une émission complètement pour les conneries entre un président qui dit j'emmerde les Français, un candidat à la présidentielle qui dit qui fait un doigt d'honneur, entre enfin
ça s'arrête jamais.
Ça vous choque, vous, qu'on puisse traiter le président de la République de bâtard, Laurent Dandrieu?
Alors, c'est vrai que quand on contextualise, effectivement, qu'on prend la phrase dans sa globalité, c'est moins violent que s'il avait juste dit c'est un gros bâtard.
Oui, en fait, c'est le fils illégitime, voilà. C'est cette
traduction-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention aux mots, qu'on sait qu'on est dans une situation où la France est très fracturée, il y a un climat qui est très, très délétère et très explosif. Et donc, je pense que le rôle de tous les politiques, quels qu'ils soient, devrait être d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un débat, si possible, apaisé. Et malheureusement, nos amis de la France Insoumise ne sont pas toujours
exemplaires,
mais souvent eux, quand même. Mais il n'y a pas que, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est ce genre d'agressivité verbale, ça ne fait pas vraiment progresser les choses. Il y a d'autres moyens d'exprimer ce qu'on a envie de dire que ça.
Ouais, mais là où il n'y avait pas, alors effectivement, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent, mais il n'y avait pas vraiment, quand on recontextualise et qu'on regarde précisément ce qu'il a dit, on affiche insulter le président. Là, en l'occurrence, c'est simplement, alors, il a utilisé le terme bâtard, non pas dans le sens de l'insulte.
Oui, c'est fils illégitime.
Mais voilà,
en fait.
C'est fils illégitime.
Bah oui, mais de ce cas-là, il peut le dire comme ça.
Bien sûr, mais c'est pour ça que moi, je rappelle à l'école, on distinguait langage soutenu et langage courant. Mmh. Il a utilisé le terme fils illégitime, mais dans un langage familier, courant, en disant bâtard.
Oui, il a fait connaissant Ruffin, il a quand même fait exprès d'employer ce terme.
Oui,
parce qu'on connaît la connotation que ça.
Peut-être, non, mais c'est sûr. Mais il n'y a pas, si vous voulez, alors effectivement, il y a une connotation.
C'est
pas une insulte directe. Il n'a pas dit espèce de bâtard. Il n'a pas dit. C'est le bâtard de François Hollande. Alors effectivement, langage familier, on pourrait s'offusquer qu'un représentant de la République, élu par le peuple, parle comme finalement n'importe qui, le commun des mortels, et décrédibilise finalement la stature politique d'un député.
Ça me gêne pas déranger. Qu'il parle comme le commun des mortels, sauf que là, il s'agit d'un mot qui est très connoté, qui notamment dans les banlieues est employé de manière récurrente.
Oui, mais c'est pas dans les banlieues,
Effectivement,
bâtard. Est-ce que vous ne trouvez pas comme qu'il y a un laisser-aller? Alors, ça avait commencé avec Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con. Mais enfin, derrière, il y avait effectivement j'emmerde les Français, il fallait non vacciner. On a l'impression que bah, ça y est, alors,
descendant
on est
aussi.
En politique, c'est comme si on était chez soi
open
ou au bistrot, quoi.
C'est ça. Sans faire old school, je crois, j'avais jamais entendu Chirac, Mitterrand.
Mais c'est pas le président, comme ça.
Non. Et général de Gaulle non plus.
Ruffin, c'est pas le président. Qui vient de citer une formule de Jacques Chirac extrêmement vulgaire.
Mais c'était pas du français. C'était très différent. Et effectivement, je pense que quand même les représentants des Français, quoi qu'on en pense, ils ont un devoir de respect des fonctions qu'ils incarnent. Enfin, c'est pas possible. Et puis on peut pas en plus être de la France insoumise avec Mélenchon qui dit la République c'est moi et traiter le président de bâtard.
Non, mais il a pas traité encore une fois.
Mais tu sais bien comme moi, Pierre,
les mots sont importants.
Les mots sont importants et il a fait employer ce mot à dessein pour qu'on retienne Macron bâtard.
C'est sûr que ça lui a fait beaucoup de
mal. Il a fait ça exprès. Donc voilà. Et moi je trouve quand même qu'on devrait quand même avoir un certain respect de la fonction et eux-mêmes. Ils représentent des gens. C'est une élection quand même de représentation. On doit respecter ça.
C'est ça. On demande aux sportifs de donner l'exemple en permanence. Les hommes politiques pourraient faire exactement la même chose.
Oui. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, je sais pas une insulte. Alors, à dessein, je pense qu'effectivement, il avait conscience des conséquences et il a fait exprès de dire ce mot-là.
Enfin, il est intelligent.
Il est intelligent, c'est sûr. Et je pense pas qu'au quotidien, il parle de cette manière. Mais encore une fois, c'est pas une insulte directe.
Le monde politique est à l'image de la société qui est de plus en plus violente verbalement.
Il avait pleinement conscience des conséquences de son acte. Ça, j'en suis sûr.
Ah oui, moi aussi.
Deuxième extrait dans ce zapping. Apolline Matin, les boîtes de nuit sont-elles devenues des lieux dangereux pour les femmes? Depuis un mois en France, plus de 60 d'entre elles se sont plaintes d'avoir été piquées lors d'une soirée par des inconnus. Des piqûres repérées sur le bras ou la cuisse, accompagnées de nausées ou de vertiges, sans savoir quel produit a été injecté. Témoignage de plusieurs femmes ce matin sur RMC.
On dansait vers 2h50 du matin. En fait, j'ai senti une piqûre au niveau de l'épaule. Et c'est le lendemain, en fait, que je me suis rendu compte que j'avais une trace de piqûre, en fait, sur l'épaule.
Franchement, ça me fait peur. C'est vrai qu'on se dit, on va pas sortir comme ça, n'importe comment, toute seule. Je pense que ça fait peur à plein de monde. Ce qui se passe, c'est quand même flippant et c'est pas rien. On profite moins, on est toujours obligé de faire attention. Donc, moi, je vais me calmer un peu en attendant.
Mais c'est vrai que c'est mystérieux et ça fait peur, hein, Catherine Rambert, parce qu'on voit que ces filles ont été piquées, elles savent pas avec quoi, elles savent pas comment, elles savent pas par qui. C'est quand même assez effrayant.
Alors, n'ayant pas été en boîte personnellement récemment, je vais pas être victime de ça. Mais non, ce qui est très mystérieux et inquiétant dans cette affaire, ça touche des femmes. Et surtout, ils n'ont pas trouvé de produit. Il n'y a pas de trace de GHB, cette drogue.
Ça disparaît très vite en GHB.
En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces piqûres. C'est un fait. Il y a des rassemblements, pas que dans les boîtes, dans les soirées, dans des trucs festifs et tout. Il y a eu ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel était le dessin, puisqu'il n'y a pas eu de victimes. De viol ou d'abus après ça. Et on n'a pas trouvé à quel produit c'était pour être lié ces piqûres. Donc l'enquête suit son cours.
Et après, c'est pas qu'une histoire de produit, parce que Robert Sebag, qui est infectiologue, le rappelait ici même sur ce plateau, c'est que cette seringue, elle peut être infectée, tout simplement. Et si elle a piqué plusieurs personnes, enfin, voilà, elle peut être aussi, ça peut être vecteur d'autres maladies, le VIH notamment.
Oui, mais comme ça touche que les femmes, majorité de femmes, je crois, on peut supposer que c'est peut-être un produit pour les, troubler leur conscience. À voir.
Ce qui m'étonne après, encore une fois, je suis consterné par ce genre de choses et d'affaires. À chaque fois, je veux dire, à bout d'un moment, si on n'est pas capable de pouvoir convenablement discuter, aborder une fille, on reste chez soi. C'est grave de passer. Si, encore une fois, le but de ces piqûres à dessein, c'est d'aller de GHB ou autre, de violer, d'embêter une fille en soirée, parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas de conséquences.
Et après, ça peut être aussi de la violence purement gratuite, malheureusement, comme on l'a vu avec dans un tout autre ordre d'idées, ces agressions contre des chevaux dans les prés, sans aucune raison, uniquement pour le plaisir de nuire, en fait. Donc ça, malheureusement, ça existe aussi.
J'ai pas entendu Ruffin traiter des agresseurs de bâtards, c'est bizarre.
Mais Ruffin, on peut le critiquer, mais il a beaucoup fait contre, justement, pas ce genre d'agression précisément, mais vis-à-vis des femmes. Non, mais il y a aussi, là, pour ce cas-là, très précisément, violence gratuite.
Ah, mais ça, c'est des bâtards, les mecs qui font ça.
Ah, oui, mais totalement.
Voilà, oui, on est d'accord.
C'est pas des filles.
Laissons les mots au bon endroit.
Exactement. Nouvel extrait dans ce zapping, les grandes gueules ce matin. Faut-il développer la voiture électrique en France alors que les coûts de production vont exploser dans quelques années? L'électrique pourrait nous garantir une indépendance énergétique, comme le soulignait le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Il était invité des GG ce matin.
Tout le monde veut faire de l'électrique partout dans le monde et donc il y a une concurrence pour les ressources. Par exemple, sur l'hydrogène, on a un coup à jouer en France. J'en parlais encore hier au président de la République. On a le nucléaire, on sait produire de l'électricité décarbonée en quantité et on voit bien que d'autres pays en Europe, je pense aux Allemands, ont fait des choix quand même qui sont aujourd'hui des choix de dépendance au gaz russe d'ailleurs. Donc là, on a vraiment sur plusieurs dizaines d'années des politiques incroyables, des politiques de puissance de la France à se constituer. C'est beaucoup d'emplois qualifiés, c'est beaucoup d'emplois en France, c'est beaucoup de rayonnement de la France à l'international. Après, le sujet, c'est comment on recycle. Et là, on a une industrie nucléaire, par exemple, avec l'ex-Areva, Orano, qui s'est recyclé quasiment 99% des éléments chimiques des batteries. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut construire demain.
Est-ce qu'on fait fausse route, Pierre Rondeau, avec cette envie de tout électrique en France, alors que Jean-Baptiste Djebbari le disait, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi certains biocarburants, on pourrait faire autre chose que l'électrique.
La recherche est un croisement, on sait qu'il faut changer et accélérer la transition vers le non-pétrole, si je peux dire, en tout cas, il faut sortir du pétrole et tendre vers ces énergies, alors alternatives, électricité, mais aussi hydrogène et biocarburants.
Oui, alors que la France, en plus, est très bien placée sur l'hydrogène et les biocarburants.
Très bien placée. Là où je suis, alors j'ai nuancé quelque peu mon propos parce que je suis d'accord avec ce que dit globalement le ministre des Transports, monsieur Djebbari, c'est sur l'indépendance énergétique en mettant en avant le nucléaire. Effectivement, on produit en France du nucléaire, mais
vu l'état de nos centrales,
tout de même dépendant de l'uranium, et l'uranium on ne le produit pas en France. Il faut bien importer de mines d'uranium en Afrique notamment. Donc de là parler d'indépendance totale, si demain on arrête la mondialisation, on ferme les frontières, on ne pourra pas aussi produire du nucléaire parce qu'on aura besoin d'uranium qu'on ne produit pas en France. Donc c'est toujours un faux débat de dire l'indépendance énergétique. Je suis d'accord avec cette énergie qui est non polluante, non émettrice de CO2, mais la gestion des déchets et même en amont l'acquisition de cette matière première pour produire de l'électricité. Donc voilà, c'est des débats qu'il faut avoir et il faut augmenter les investissements et l'innovation.
Est-ce qu'on s'est trompé finalement pour vous, Laurent Dandrieux, avec cette promotion du tout électrique justement? Et puis là on voit aussi la difficulté avec les problèmes d'approvisionnement de certains composants, quoi.
Les problèmes d'approvisionnement de certains composants, les problèmes de pollution en amont, puisque ce sont des composants qui sont polluants, qu'on ne sait pas en plus les batteries retraitées après. Oui, je pense que de toute façon, quand on y a ce genre d'engouement, tout à coup, on veut faire du tout ceci ou du tout cela, il y a forcément une part d'erreur. Après, en plus, on s'aperçoit que les bus électriques prennent feu, donc l'électrique tue, si ça se trouve.
Il n'y a pas eu de blessé.
Donc non, il y a peut-être effectivement d'autres pistes à explorer prioritairement.
Mais non, mais il y a un mix énergétique. C'est bien quand on a 50 km à faire par jour, Pierre.
Non, mais il y a un mix énergétique. Moi, ça m'agace toujours. Là, j'ai l'impression qu'il postule au futur ministère de l'énergie, un truc comme ça, ça m'agace. On sait bien que maintenant la solution elle est dans le mix, qu'il va falloir un peu d'électrique, un peu d'hydrogène, un petit peu de biocarburant, enfin voilà, et un peu de vélo, Pierre, pour toi. Donc voilà, moi, ça, j'aime pas vraiment ces postures de allez, on peut faire tout ça.
Vélo,
comme l'a rappelé Pierre, on est forcément dépendant de quelque chose. Donc faisons le mix et on sera plus tranquille et plus, comme on dit, mettons pas tous nos œufs dans le même panier.
Oui, mais sauf que le problème, c'est que les aides gouvernementales, elles sont dans le même panier parce que vous pouvez toujours essayer de.
Et qui va les acheter, les voitures? Les Français n'ont pas d'argent, ils sont ruinés.
Oui, certes, mais aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture avec un boîtier bioéthanol, vous avez zéro financement de l'État. Ouais, alors qu'en revanche, vous voulez acheter une voiture électrique, alors là.
Et vous avez 5 000 euros
d'aide, donc c'est ça qui ne va
vous
pas.
Vous avez 5 000 euros d'aide, mais quand la voiture électrique coûte 25 000 euros à l'achat, forcément, ça fait toujours 20 000 euros à dépenser. C'est beaucoup trop pour le Français moyen.
Et bien, donc autant financer les boîtiers de conversion.
D'accord avec vous, mais oui, et aller vers une autre forme de transition locomotive et pas uniquement tout miser sous l'électrique.
Estelle, présidente, je vous le dis depuis le début.
Dans 5 ans, trop dans 5 ans.
Dernier extrait, ou 7 ans, on ne sait pas. Dernier extrait dans ce zapping. La gauche est-elle de retour dans le match politique? Un accord est en passe d'être signé pour les législatives entre l'EPS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, mais pour Kevin Bossuet des GG, cet accord serait une erreur puisque ces partis n'ont aucune valeur commune.
À partir du moment où le Parti Socialiste se soumet à la France Insoumise, en fait, le Parti Socialiste perd son âme. Il y en a beaucoup qui sont en train de quitter le Parti Socialiste. Je pense par exemple à Paul Melun, qui était encarté au Parti Socialiste, qui quitte le Parti Socialiste parce que c'est un républicain fervent. Il est hors de question qu'il s'allie avec un parti parfois un peu soumis à une forme d'islamo-gauchiste qui tient des propos éhontés sur nos policiers qui font du populisme bas de gamme dans nos banlieues. Et je
donc
pense
t'es plutôt dans la théorie de Manuel Valls, ces gauches sont irréconciliables.
Ces gauches sont irréconciliables parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, il y a une rupture démocratique. Et dernière chose que j'aimerais dire, imaginez si LR était en train de négocier avec le Rassemblement National. Imaginez ce que ce ferait. Donc, ça se ferait tous les titres dans nos journaux. Ça serait la rediabolisation.
Bon, Kevin Bossuet est terrifié par un accord éventuel entre les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Enfin, on a passé notre temps là ces derniers mois à dire la gauche est désunie. Est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle?
Alors, on peut s'en féliciter. Évidemment, le PS va avaler énormément de couleuvres, mais ils ont fait 2% à la présidentielle.
Pas tout à fait.
Oui, enfin, pas tout à fait. Ils se doivent de survivre. On sait que c'est est très important pour eux les législatives parce que ça c'est ce qui permet de fixer le financement des partis, donc ils se doivent absolument d'avoir à minima une quinzaine de députés. S'ils n'ont pas cette quinzaine de députés après une alliance avec la FI, c'est la mort du parti.
Oui, donc, mais Pierre, au point de se renier à ce point.
Oui, mais s'ils le font pas, ils
meurent. Le PS, il est pro-européen toujours.
Ils sont agonisants.
Mélenchon, il appelle à la désobéissance européenne quand ça l'arrangera. Et puis aussi, quid de la laïcité? Parce que les quartiers où il n'y a plus de République en France, ça ne le gêne pas tellement Mélenchon, hein, quand il parle de créolisation.
C'est deux valeurs
fondamentales de la gauche à laquelle ils sont en train de renoncer.
Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de candidats aux législatives qui vont faire campagne sur un programme qui ne leur convient pas, auquel ils adhèrent pas. Et du coup, on l'a bien vu avec Valérie Pécresse, c'est compliqué de faire campagne sur un programme auquel vous croyez pas. Je voudrais juste dire aussi que du coup, comme la gauche est en train de s'organiser et de s'unir, le RN et Reconquête, s'ils veulent pas être balayés, ils feraient bien de mettre leur querelle de côté, de s'entendre, sinon ils vont avoir des problèmes.
Oui, parce que ça non plus, c'est pas gagné. Martin Bourdin.
Oui, juste pour info, les négociations entre le PS et la France Insoumise sont suspendues. Ça vient de tomber, donc voilà, elles sont suspendues.
On a parlé pour rien.
Eh ben, on a bien fait d'en débattre. Heureusement que c'était court.